Au XIXe siècle, un certain Alphonse Carr a écrit dans son journal satirique « Plus ça change, plus c'est la même chose ». Cette affirmation paradoxale était un coup de pied lancé contre les intellectuels et les politiciens de son siècle. Pourtant, cette expression peut aussi avoir une connotation positive, car il y a des changements qui sont comme la marée, elle brasse beaucoup d'eau, mais le navire bien ancré ne bouge pas. On considère le passage de l'Ancien au Nouveau Testament comme un changement radical et sans futin. Cependant, comme Dieu est fidèle à lui-même, le moyen de salut n'a jamais changé. Sous l'Ancienne Alliance, les hommes étaient sauvés sur la même base que sous la Nouvelle, à savoir par la mort expiatoire de Jésus-Christ à la place des pécheurs. Le système complexe et lourd du judaïsme, avec ses nombreux sacrifices, n'était pas une course d'obstacles à franchir en vue d'être sauvé, mais une illustration de l'œuvre rédemptrice que Jésus accomplirait sur la croix. Dans l'Ancien Testament, on obtenait la vie éternelle, comme aujourd'hui, par la foi. Quand les Israélites reconnaissaient leur incapacité à garder la loi sainte de Dieu, ils allaient au temple faire une offrande pour leurs péchés ou participaient par la foi au sacrifice quotidien et à celui du Yom Kippour et criaient à Dieu dans leur cœur pour obtenir sa miséricorde et recevoir son pardon. Tous ceux qui sont sauvés ont été élus de toute éternité et doivent leur salut au Christ et à sa mort sur la croix. Dans l'Ancien Testament, les croyants en bénéficiaient par anticipation, alors que depuis la venue de Jésus, ils regardent à son sacrifice qui a déjà eu lieu. Depuis le début de l'humanité, le juste a toujours été celui qui établissait une relation avec Dieu par la foi, si bien qu'aucun sacrifice, aucune confession, aucun rite, ni aucune observance de la loi à n'importe quelle époque, ne peut mériter le statut de juste devant Dieu, ni permettre d'éviter son juste jugement contre les pécheurs. Seule la mort du Christ pouvait satisfaire la justice de Dieu et sauver les pécheurs de sa colère. Et parce que la vie parfaite de Jésus a été imputée aux croyants, ils jouissent de la faveur de Dieu. Pourtant, même le disciple de Jésus le plus consacré commet encore des fautes qu'il doit reconnaître et avouer afin d'être pardonné et rétabli dans sa communion avec le Seigneur. Il existe donc deux sortes de pardon. L'aspect judiciaire qui a été réglé une fois pour toutes sur la croix et l'aspect pratique qui a trait à la vie quotidienne du croyant. Jésus a illustré ces deux aspects du pardon quand il a lavé la poussière des pieds de ses apôtres. À cette occasion, Pierre, qui était tout à fait conscient de ses péchés, lui a dit « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Mais Jésus a refusé et lui a répondu « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs. » Par ces paroles, Jésus a fait une distinction entre le bain et le dépoussiérage. Le bain qui lave tout est l'aspect judiciaire, où, sur la base du sacrifice du Christ, Dieu déclare juste à tout jamais le pécheur repentant. Le lavage des pieds, par contre, représente le pardon quotidien ou encore la sanctification, c'est-à-dire le processus qui consiste à devenir de plus en plus conforme à Jésus. Bien que les croyants aient été justifiés une fois pour toutes, ils ne sont pas encore affranchis ni de la puissance ni de la présence du péché dans leur vie. L'apôtre Paul exprime cette réalité dans sa propre vie quand il écrit « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Fin de citation. Cependant, quand le croyant commet une faute, il doit la reconnaître, non pas face à un juge, mais devant leur Père céleste. C'est ce qui correspond au lavage des pieds. La repentance, qui est la reconnaissance de ses fautes et la volonté de changer, accompagne toujours la foi qui sauve. Mais c'est aussi un élément essentiel à la marche dans la lumière de tout enfant de Dieu. Le véritable croyant est déjà pardonné, mais il accepte aussi que le Saint-Esprit lui révèle la tête hideuse du péché qui est encore dans sa vie, puis il l'avoue et s'en détourne. C'est en agissant ainsi qu'il reste en communion avec Dieu son Père. Je continue à lire dans le premier chapitre de la première épître de Jean. « Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion et, parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Verset 7. La lumière est la réalité fondamentale que partagent Dieu et le croyant qui marche avec lui. Lorsqu'un pécheur est déclaré juste par Dieu, son statut pénal ou judiciaire est inversé, puisqu'il n'est plus condamné. Dès lors, s'il accepte de se soumettre au Saint-Esprit qui lui a été donné, il marchera dans la lumière et modifiera ses comportements pour devenir juste dans ses actions dans tous les domaines de sa vie. Dans le Nouveau Testament et en particulier dans les Épîtres de Paul, le verbe « marcher » est utilisé pour décrire la sanctification du croyant, sa vie avec Dieu. Comme Jean conjugue le verbe « marcher » au présent de l'indicatif, il exprime une action continue. On pourrait traduire « si nous continuons à marcher dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion ». Le « si » montre que cette action n'est pas automatique. Seuls les fidèles qui choisissent de marcher dans la lumière sont en communion avec Dieu. Quand le croyant est ouvert à la lumière de la vérité divine qui le scrute et balaye tous les recoins de son âme, ses fautes sont sous la puissance purificatrice du sang que Jésus a versé. On pourrait dire que les croyants ont continuellement les pieds lavés, débarrassés de toute souillure. Seulement, si on lave bien ses pieds avec de l'eau, seul le sang de Jésus peut purifier l'âme. Dans le Nouveau Testament, le mot « sang » est souvent utilisé pour signifier le sacrifice de Jésus sur la croix, grâce auquel il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Cependant, et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'un croyant marche dans la lumière en communion avec Dieu qu'il n'a plus de problème avec le péché. Toute sa vie, il aura à le combattre du fait qu'il traîne toujours avec lui comme un boulet cette nature pécheresse qu'il a héritée d'Adam, son ancêtre. Je continue le texte. « Si nous prétendons que nous n'avons pas le péché en nous, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Verset 8. L'expression « avoir le péché est rare et n'est utilisé que par Jean. Elle a un sens plus fort que commettre des péchés qui ne sont que les manifestations du principe du mal qui habite en chaque être humain. Précédemment, Jean a fait allusion à un groupe de menteurs qui prétendent être en communion avec Dieu alors qu'ils marchent dans les ténèbres, c'est-à-dire vivent dans le péché de façon habituelle. Maintenant, il parle d'un deuxième groupe de faux frères qui dit ne pas posséder une nature pécheresse en eux, c'est-à-dire ne pas avoir un cœur corrompu et ne pas être coupable de péché. Ces gens faisaient partie de ces hérétiques qui opposaient corps et esprit, disant que ce dernier n'était pas contaminé par les actions du corps. En gros, c'est encore la position de la science chrétienne. En réalité, le péché corrompt l'homme dans sa totalité. Semblable au cancer ou à la gangrène avec des tentacules partout, le péché est particulièrement tenace et nous colle à la peau du début à la fin de notre vie. Suite au jugement du déluge et parlant de la nature humaine, l'Éternel déclara que le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Lors de la prière de dédicace du temple, Salomon a demandé « Quel est l'homme qui ne commet jamais de péché ?» Une tournure de rhétorique qui signifie que tout homme est coupable devant Dieu. Et un prophète dit « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable, qui pourrait le connaître ?» Terrorisé par une vision de la sainteté majestueuse de Dieu, le prophète Ésaïe s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit « L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. » Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. » Fin de citation. Le croyant qui comprend l'enseignement des Écritures concernant la totale dépravation de l'être humain et qui est honnête avec lui-même, c'est que le péché entache tout ce qu'il fait et pense et qu'il n'est jamais pur à 100%. Ne nous leurrons pas. Personne n'a jamais fait un acte qui était désintéressé à 100%. Ce n'est pas tout. Le simple fait de ne pas être conscient d'une faute ne veut pas dire qu'on ne l'a pas commise. Le Christ est le seul homme qui, en toute vérité, pouvait dire « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute ?» Jean continue avec une parole sur la confession et le pardon des péchés. Quand on parle de confession, les opinions divergent fortement. Quand j'étais enfant, tous les jeudis, j'allais au catéchisme. C'est là que j'ai appris que la confession consistait à divulguer à un prêtre les fautes que j'avais commises. Il fallait tout lui avouer, puis répéter une certaine formule, puis réciter l'acte de contrition. Ensuite, le prêtre prononçait l'absolution. Une fois sorti du confessionnal, il fallait encore accomplir un rite pénitentiel comme répéter une prière ou dire une partie du chapelet. Une fois tout cela accompli, on était pardonné. Vous pensez bien qu'on n'aimait pas tellement raconter à un prêtre nos écarts de conduite. Alors quand c'était le moment d'aller à la confesse, comme on disait avec les copains, on y allait tous ensemble pour se serrer les coudes. Assis sur un banc, on attendait chacun son tour et je me souviens qu'on notait bien le temps que chacun passait avec le prêtre. Et quand enfin il sortait du confessionnal, on faisait des commentaires du genre « Eh bien dis donc, petit cachotier, on savait pas que t'en avais tant fait ». Je continue maintenant avec le texte de 1 Jean. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifiera même en plus de toute injustice, de toute iniquité. » Verset 9. La grammaire de ce verset est un peu subtile, alors pour la rendre correctement, j'ai écrit une paraphrase. Ce passage s'adresse seulement aux croyants, car Jean ne fait jamais de la confession des péchés une condition pour obtenir la vie éternelle. Le mot traduit par « juste » est un titre que Jean applique à Jésus au début du chapitre suivant et qu'il utilise également à propos du Père ou du Fils plus loin dans l'Épître. Le mot pour « confession » a donné « homologue » en français et signifie « dire la même chose ». En d'autres mots, le véritable croyant est celui qui est du même avis que Dieu concernant ses péchés. Il les reconnaît comme une transgression de la loi morale et de la volonté de son Père céleste et les avoue comme tels. En fait, c'est parce que le croyant a déjà été pardonné en passant par le bain purificateur de la nouvelle naissance qu'il reconnaît ses fautes et qu'ainsi ses pieds sont lavés, pour reprendre l'image de ce que Jésus a fait à ses disciples. Plus un enfant de Dieu marche dans la lumière et plus il désire se détourner du péché, ce qui produit en lui un cœur sincèrement repentant. D'ailleurs, à ce sujet, plus loin dans l'Épître, Jean écrit que les vrais croyants ne continuent pas dans le péché, mais aspirent à obéir à Dieu et à mener une vie sainte. Dieu seul connaît l'étendue de nos fautes, mais comme il est aussi notre Père céleste, nous sommes en famille. Or, il est tout à fait normal qu'un fils ait à demander pardon à son père pour un écart de conduite, et s'il ne le fait pas, il est toujours un fils, mais les relations familiales seront tendues. Pour qu'il reste dans la lumière, le croyant doit donc reconnaître et avouer devant son Père céleste tout ce que le Saint-Esprit met devant les yeux de sa conscience. C'est aussi ce que Jésus a enseigné à ses disciples quand il leur a dit de prier en disant à Dieu « Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous ». Quand le croyant perd le contact avec son Père céleste, qui est Dieu de lumière, il commence à vivre dans les ténèbres. Mais s'il avoue ses écarts de conduite, une purification complète et parfaite lui est accordée et il revient dans la lumière. Cependant, il ne doit pas devenir obsessionnel, se torturer l'esprit et être angoissé concernant les fautes dont il n'est pas conscient. En effet, les croyants sont pardonnés pour tous leurs péchés, même ceux qu'ils n'ont pas reconnus ou avoués, parce que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix couvre au grand complet toutes les fautes de tous ceux qui croient en lui. Aucun élu n'entrera donc au ciel avec une liste de péchés non confessés suspendue au-dessus de sa tête. Le croyant qui avoue ses fautes peut être certain qu'il sera pardonné parce que d'une part, le pardon que Dieu accorde dépend du sacrifice expiatoire de Jésus qui a parfaitement satisfait sa justice et d'autre part, Dieu n'est pas capricieux mais fidèle à ses promesses. Je finis le premier chapitre de 1 Jean. Si nous prétendons ne pas avoir commis des péchés, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Verset 10. Ici encore, Jean s'adresse en premier lieu à des croyants pour leur dire de ne pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur qu'ils ne commettent plus de fautes. Si, en ce bas monde, quelqu'un pense avoir atteint ce niveau de perfection, il ne fait pas bon d'être son conjoint parce que ça doit être drôlement difficile de vivre et de satisfaire une personne qui se croit parfaite. Dans la réalité, le processus de sanctification du croyant, qui consiste à devenir comme Jésus, ne s'achèvera que lorsqu'il sera glorifié dans le ciel. Alors, et alors seulement, il sera sans péché. Toute personne qui prétend avoir atteint un niveau spirituel supérieur où le péché n'existe plus dans sa vie n'a rien compris à sa vraie condition. Une telle croyance est hautement prétentieuse et contredit totalement les Écritures qui enseignent que ceux qui sont en communion avec Dieu peuvent tomber dans le péché. Mais alors ils ne nient pas leur faute, mais l'avouent ouvertement et sincèrement devant le Seigneur. La parabole de Jésus au sujet du pharisien et du collecteur d'impôts indique clairement qu'on ne peut être déclaré juste par Dieu sans reconnaître son état de pécheur. Dans cette histoire, contrairement au pharisien imbu de lui-même, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Et Jésus de conclure « Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. »